Nous accueillons immédiatement Philippe Quentin. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
Comment vas-tu?
Ah, en pleine forme, un week-end de tennis assez intéressant. Alors, hey, j'ai eu bien du plaisir.
On s'en parlait vendredi au moment de se quitter pour le week-end. Ça sentait pas bon en direct au moment où on voyait Bianca Andreescu dominer Eugénie Bouchard. Le tout s'est concrétisé. Ça a été un cinglant revers, 6-0, 6-2. Mademoiselle Andreescu gagne le tournoi ensuite. Alors, c'est beaucoup de choses là, qui se passent dans sa carrière. Mais Eugénie, ça remettra-t-elle?
Ben, c'est ça. C'est la bonne question à poser, je pense. Bon, d'abord, Andreescu, c'est fantastique ce qu'elle a réalisé. Et ce matin, les classements de la WTA, le nouveau classement de la WTA a été publié. Et Bianca Andreescu devance Eugénie Bouchard. Elle est 68e et Eugénie Bouchard est 76e. Alors, je me souviens plus de la dernière fois où Eugénie Bouchard n'a pas été première canadienne. De façon générale, elle occupe ce rang-là depuis 2014. Mais là, la façon dont Bianca Andreescu a joué, la façon dont elle s'est imposée et surtout qu'elle atteint ce rang-là en battant Eugénie Bouchard vendredi de façon tellement convaincante, 6-2, 6-0, c'est ce qui lui a permis d'atteindre les rondes subséquentes et éventuellement de remporter le tournoi. Et moi, je me pose la question, Mario, c'est on sait tous qu'Eugénie Bouchard a commencé la saison en Australie avec enthousiasme. Elle a obtenu quelques bons résultats. Là, elle arrive à l'Omnium d'Australie. Le tirage ne la favorise pas. Elle affronte dès la deuxième ronde Serena Williams. C'est très, très dur. Et évidemment, elle ne fait pas le poids contre Serena Williams. Mais quand même, elle avait de quoi bâtir. Elle avait eu des performances intéressantes et on sait que c'est sa confiance qui est affectée. Elle a beaucoup de misère à jouer, notamment au troisième set. On sent que quand la situation est un peu corsée. Elle perd un peu de sa... pas de sa motivation, certainement pas, mais certainement de sa confiance. Et là, elle rebâtit ça un peu, mais là, elle se retrouve dans un tournoi de moindre envergure contre Bianca Andreescu, sa rivale canadienne, et elle se fait clencher 6-2, 6-0 le deuxième set en 20 minutes.
Oui, oui.
Tu sais, ça fait mal, là. Alors moi, la question que je pose à l'heure actuelle, c'est comment va-t-elle faire pour se remettre de ça, alors qu'elle croyait qu'elle avait potentiellement un début de saison qui lui permettrait d'avoir un air d'aller, de repartir sur de nouvelles bases. Et là, arrive ce knock-out contre sa compatriote. C'est certainement très, très dur pour son moral parce qu'il ne faut pas se le cacher. Être la première Canadienne, c'est important aussi d'être la meilleure au pays. Et là, elle perd ce titre-là qui est à peu près le seul qui lui restait. Alors, ça fait mal.
Et ça fait vraiment mal. Et que pensais-tu de son langage corporel pendant le 6-0, surtout la deuxième manche d'Eugénie, Philippe, en observant ça?
De façon générale, là, c'est dur pour elle depuis un bout. Là, on l'a vu que quand c'est corsé, quand elle fait face à beaucoup de pression, son entraîneur lui a dit d'ailleurs récemment en Australie, ton attitude est un problème. Elle a dit, il a bien fait de me le dire, je veux corriger ça, mais ça reste fragile.
Ouais.
C'est ça, exactement. Et ça fait plusieurs années maintenant qu'elle ne connaît pas de succès et on a beau dire qu'elle demeure jeune. Tu vois un peu les joueuses qui sont en train d'émerger sur la scène internationale. Le calibre est extrêmement fort. Et ça m'amène à te parler, bien sûr, de Naomi Osaka, qui a gagné un deuxième majeur consécutif, qui remporte l'Open d'Australie. Je pense, Mario, que Naomi Osaka et la prochaine grande vedette internationale, si elle ne l'est pas déjà la plus grande vedette internationale.
La Tiger Woods féminine?
Oui, voilà. Cette joueuse-là...
Ses origines aussi, hein?
C'est un parcours absolument extraordinaire. Puis je pense que je vais peut-être juste un peu le rappeler aux gens.
Ben oui,
pas tout le monde qui sait exactement d'où elle vient exactement, Naomi Osaka. Alors, elle est née au Japon d'une mère japonaise et d'un père originaire d'Haïti qui a grandi aux États-Unis. Et ce jeune homme-là, quand il était plus jeune, le père de Naomi Osaka, est allé au Japon pour aller vivre une expérience culturelle différente. Il a rencontré cette Japonaise avec qui il est tombé en amour et les deux ont eu deux enfants, deux filles. Il y en a une qui est plus vieille que Naomi, qui s'appelle Marie, qui est également une joueuse de tennis. Et là, le père, lui, un jour, il regarde l'Omnium de Roland-Garros à la télé et il voit les deux sœurs Williams. Il trouve ça extraordinaire. Et c'est le New York Times qui racontait ça il y a quelques mois. Et là, lui, il voit ça et il dit, hey, moi, je veux que mes filles jouent au tennis aussi. Alors, il les met au tennis, mais en misant beaucoup sur l'aînée, sur Marie Osaka, puis qui bat tout le temps sa jeune sœur, Naomi. Et puis là, il retourne vivre aux États-Unis. Ils vivent à Brooklyn avec... avec les parents du jeune homme, du mari. Et puis là, il joue au tennis aux États-Unis et tout, mais il ne sent pas un énorme appui de la Fédération américaine pour les développer. Alors, quand Naomi arrive à l'âge de 13 ans, le père dit, elle va plutôt représenter le Japon à partir de maintenant. Et ça a été une décision extrêmement profitable parce qu'on sait que les joueurs de tennis au Japon, au point de vue économique, quand les commanditaires décident de les appuyer, c'est beaucoup d'argent. J'ai appris une chose que j'ignorais. Est-ce que tu savais, Mario, que l'an dernier, selon la revue Forbes, dans les revenus de commandite des joueurs de tennis, au premier rang, c'était Roger Federer. Là, je ne parle pas des revenus sur le terrain, je parle des revenus de commandite. Premier rang, Roger Federer, qui était deuxième devant Nadal, devant Djokovic, qui Nishikori, le japonais, parce qu'il fait tellement d'argent au Japon. Alors là, maintenant, c'est Naomi Osaka qui commence à obtenir ses contrats absolument démentiels en termes de dollars. Là, celui avec Adidas frôle le 10 millions de dollars par année. Et là, avec les Jeux olympiques, qui vont être à Tokyo l'été 2020, en 2020. Donc, elle va être la tête d'affiche de ces Jeux-là au Japon. Donc, elle devient une vedette extraordinaire. Puis en plus, c'est une fille qui a un tennis tellement excitant. C'est du tennis offensif, c'est du tennis agressif. C'est le fun de l'avoir joué. Moi, je pense qu'elle est vouée à un avenir absolument extraordinaire. Si, bien sûr, elle peut, à travers toute cette popularité-là, cette renommée-là, sa vie qui va changer, qui change déjà, garder les deux pieds solidement ancrés au sol, c'est bien sûr le défi auquel elle est confrontée. Elle n'a que 21 ans. Alors, comment elle va faire ça, on verra bien.
Absolument. Et quel timing avec ta présentation bientôt des Jeux olympiques à Tokyo en 2020. Phénoménal.
Elle a des atouts en plus parce que son entraîneur a été le partenaire d'entraînement de Serena Williams pendant 8 ans. Alors, son entraîneur connaît le tabac. Il sait c'est quoi côtoyer et peut-être jusqu'à un certain point appuyer une championne. Alors ça, je pense que c'est un atout important dans son jeu. Mais moi, la façon dont elle a gagné l'Omnium d'Australie, là, après avoir gagné l'Omnium américain en septembre dernier, après ça, elle avait eu un petit passage à vide, c'est sûr. C'est tellement une grosse victoire et composer avec ça, c'est beaucoup. Mais qu'elle revienne dès le majeur suivant pour remporter la victoire, j'ai trouvé ça exceptionnel.
Ça en dit déjà beaucoup, beaucoup sur elle. D'autre part, on en a parlé déjà un petit peu avec Ray dans une autre perspective, mais grosse semaine de football avec le Super Bowl le dimanche prochain. Et il a parlé de l'essoufflement, d'une espèce de fatigue par rapport à la présence redondante du point de vue de certains des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Toi, le vois-tu comme ça? Moi, non. En tout cas, il me semble que c'est quelque chose d'historique qui pourrait réaliser encore. Autant Brady au niveau individuel, Belichick, le tandem, l'équipe, c'est spécial.
Oui, c'est très spécial, puis je pense que le fait que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre soient tellement une équipe polarisante, il y a peu de gens qui ont une opinion neutre à propos des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. C'est comme leurs adversaires, les Rams. Bon, est-ce qu'on a une opinion très marquée à propos des Rams? Non, pas vraiment. Non. On les connaît, puis on sait qu'ils ont changé de ville, puis c'est une bonne équipe avec
bonne
un passé.
Ouais, c'est ça.
Alors que les Patriots, c'est pas ça. Les Patriots, où on les aime, il y a des gens qui sont en amour avec les Patriots, puis Tom Brady, c'est leur plus grand héros, puis ils aiment cette équipe-là. Puis il y a les gens qui la détestent, qui détestent Bill Belichick, qui détestent les Patriots, qui détestent Tom Brady pour toutes sortes de raisons. Bien sûr, il y a tous ces soupçons de ballons dégonflés puis d'espionnage de l'autre équipe là, qui ont marqué leur histoire au fil du temps, qui les a pas rendus très populaires. Mais il y a aussi, je suis d'accord avec Ray là-dessus, l'essoufflement un peu de les voir toujours au sommet de la hiérarchie dans le football. Mais d'un autre côté, je pense que ça donne un intérêt formidable justement pour cette raison-là. Ceux qui les aiment souhaitent tellement qu'ils gagnent parce qu'ils vont être capables de le faire encore une autre année. Et ceux qui détestent souhaitent seulement qu'ils encaissent une défaite un peu comme celle de l'an dernier qui a été tellement étonnante contre les Eagles de Philadelphie. Alors moi, je pense qu'au contraire, ça met la table, ça suscite un intérêt absolument formidable. Cela dit, ça va être le fun quand il y aura un passage du flambeau là, dans la hiérarchie au football.
Ça s'en vient, je pense.
Ouais.
Peut-être cette année, si les Rams l'emportent en quelque sorte.
Peut-être. Mais tu sais, on dirait que les Patriots, ils reviennent à chaque année. T'sais, l'an dernier, les Eagles étaient là. Mais les Eagles ne sont pas revenus cette année. Cette année, c'est les Rams dans la nationale. Ça sera qui l'an prochain? Est-ce que ça sera encore les Rams? Peut-être.
Mais tu ne trouves pas ça impressionnant, Philippe? Et regarde, quand on sait, regarde les équipes, comment ils ont de difficulté à se rendre là. Qu'eux autres trouvent tout le temps une façon. Puis les joueurs défilent, ils gardent leur noyau, gardent la plupart des principaux éléments. Mais Écoute, il y a du génie là-dedans.
Il y a du génie, puis c'est le plan de match aussi qui évolue tout le temps. T'sais, moi, je pensais que les Chiefs de Kansas City prendraient la mesure des Patriots là, dans la finale de la conférence américaine à Kansas City avec Patrick Mahomes, qui est tellement spectaculaire à domicile, tellement efficace, qui multiplie les gains de verge par la passe. T'sais, c'est vraiment un joueur fantastique. Et là, arrivent les Patriots avec un plan de match un peu différent qui a complètement pris par surprise les Chiefs, qui ont même fait des changements dans leur équipe d'entraîneurs en défensive par la suite. Tu sens que ça fait mal. Donc, c'est peut-être la même équipe qui est là, les Patriots, mais elle se renouvelle constamment, même avec le même personnel. Oui. Elle se renouvelle avec ses plans de match, elle se renouvelle avec la façon dont elle approche les matchs. Et ça c'est assez spectaculaire. Puis c'est drôle, on parlait de tennis tantôt, toi et moi. Puis tu regardes au tennis, on en parlait la semaine dernière, mais tu sais, la domination du Big Three, la façon dont ces joueurs-là, au sommet, Federer, Nadal, Djokovic, comment ils se renouvellent, comment ils sont capables de demeurer au sommet, ça prend vraiment un caractère très, très particulier pour réussir ça. Les Patriots le font au football, puis au tennis, on sait que les trois grands champions sont capables de le faire aussi.
Non, c'est exceptionnel, ouais, puis tu fais bien de faire le lien avec tous ceux qui dominent leur sport là, comme nul autre. Il y a quelque chose là, qu'ils font différemment. C'est peut-être que ça frise la folie, mais une folie très productive en termes de résultats. Philippe, merci beaucoup. Bonne soirée. On se repasse cette semaine.
Je te ferai une prédiction la semaine prochaine.
Garde ça dans le cas des blessures pendant la semaine, quelque
c'est
chose.
Ça.
Ou qu'on apprend qu'il y en a un qui a sauté le couvre-feu. Ça arrive encore des fois.
Ouais, ça arrive.
Salut Philippe.
Salut Mario.
Après la pause, Marc-Antoine Godin se joint à nous. Discussion hockey, beaucoup de scénarios. Entre autres, on va se mettre dans la tête de Kekäläinen. Qu'est-ce que tu fais avec Panarin? Qu'est-ce que tu fais avec Bobrovsky? T'as une équipe qui peut gagner là, cette année. Là. Est-ce qu'il va prendre la chance comme les Islanders ont fait que Tavares les perdent pour rien? Panarin a dit, là, c'est une information de dernière minute qui vient d'un agent de hockey, qui vient de son agent, qu'ils ont informé l'équipe qu'ils sont, ils sont volontaires dans l'idée de discuter du futur d'Artéri après la saison, parce que le focus actuel, c'est de gagner la Coupe Stanley pour les Blue Jackets. Alors, est-ce que ça éloigne Panarin des rumeurs et du marché? Il n'en reste pas moins qu'il y a beaucoup d'autres scénarios envisageables. On parle même peut-être d'un contrat à long terme pour Auston Matthews, selon Pierre Lebrun. Plus de détails avec Marc-Antoine Godin dans quelques instants.